petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La guerre de Troie n'aura pas lieu. Tel est le titre de la pièce de théâtre de Jean Giraudoux en 1935. Giraudoux, déjà acteur à succès, est un pacifiste français dans le contexte européen entre 1929, l'année de l'énorme crise financière et économique mondiale, et 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Giraudoux espère bien, comme Hector, personnage de sa pièce de théâtre, que la guerre n'aura pas lieu. Mais des chefs ennemis, comme Ulysse et Hector, ont beau faire et vouloir sauver la paix, il y a des points de non-retour à partir desquels la guerre semble inévitable. Sans que personne n'en ait donné l'ordre, un javelot peut être lancé et la riposte suivra. C'est parti. C'est ce qui va se passer après cette magnifique scène où Ulysse, pour les Grecs, et Hector, pour les Troyens, prennent congé l'un de l'autre pour retourner chacun vers leur armée en face à face. Ils sont décidés, eux, à renoncer à l'affrontement. Mais le vieil Ulysse a prévenu le jeune Hector que les jeux sont faits. La guerre aura lieu, et elle a lieu. La guerre de Troie a été une guerre mondiale à l'échelle de l'Antiquité. Toutes les cités grecques sont engagées, et Troie, de l'autre côté de la mer Égée, est une grande puissance. Tous les dieux de la mythologie sont concernés. Cette guerre de Troie est peut-être plus légendaire qu'historique, 12 siècles avant Jésus-Christ. Mais racontée dans l'Iliade par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, elle marque notre civilisation. Déjà, à l'époque, l'ennemi venait de l'Est, venait de la côte turque. Mais ne poursuivons pas ces comparaisons anachroniques et hasardeuses. Ce qui nous parle aujourd'hui, dans cette mer de toutes les guerres, qu'est la guerre de Troie, est qu'elle aurait pu être évitée, mais qu'elle n'a pas été évitée. Si le prince troyen Paris n'avait pas enlevé Hélène, la femme d'un roi grec, si les Troyens l'avaient rendue aussitôt, si, la guerre n'aurait pas eu lieu. Mais il arrive un moment où les tensions sont telles, où les cœurs sont passionnément orientés dans le face-à-face, que les hommes ne peuvent plus guère faire marche arrière. 33 siècles après la guerre de Troie, la guerre d'Ukraine va-t-elle devenir une guerre mondiale? En cette période complotiste, on pourrait soupçonner un complot politico-médiatique pour nous faire croire à une guerre prochaine intense afin de nous détourner des questions de pouvoir d'achat et de pollution. Mais non, non. Déjà, lorsque Poutine, fin 2021, a amassé des troupes à sa frontière avec l'Ukraine, presque tout le monde pensait qu'il bluffait et que certains médias de mauvais augure jouaient à nous faire peur. Eh bien, Poutine, pensait-on, ne pouvait pas attaquer, car pour quelle raison majeure prendrait-il le risque de transgresser le sacro-saint droit international d'intangibilité des frontières, quelles que puissent être les raisons de cette transgression. une guerre en Europe paraissait invraisemblable. Et pourtant, la Russie a envahi l'Ukraine avec son armée. Alors Poutine, plus ou moins vainqueur à l'est de l'Ukraine, ce qui semble être le cas aujourd'hui, provisoirement, Poutine, sur sa lancée, envahira-t-il toute l'Ukraine et pourquoi pas les trois micro-pays baltes? Poutine fait preuve de témérité dans l'action tout risque et fait preuve d'imprévisibilité. Personne ne sait ce qu'il veut. Et s'il veut le faire, eh bien, le laissera-t-on faire jusqu'au bout? La victoire présente encourage à vouloir des victoires futures. Napoléon et Hitler ont vécu cette fuite en avant de leur armée victorieuse. Alors, entre parenthèses, ce qui ne veut pas dire que Napoléon et Hitler ont le même profil. L'un a, entre autres, diffusé le code civil et le code pénal en Europe, alors que l'autre, entre autres aussi, a diffusé les camps de la mort. Bon, je reviens à mon propos. L'Union européenne, dont la France aurait tort, dont la France fait partie, aurait tort de considérer les menaces poutiniennes comme de la politique fiction. Les menaces militaires russes sont réelles. À juste titre, beaucoup comparent 2024 à 1938. Mais sans expliciter suffisamment la pertinence de cette comparaison à laquelle les jeunes générations ont difficilement accès. Dès 1933, Hitler veut unifier dans son futur Troisième Reich toutes les populations germanophones. Il commence par annexer la Sarre en 1935, puis il envahit l'Autriche, l'Anschluss, en mars 1938, et à nouveau, il envahit les Sudètes en septembre 1938, population au nord de la Tchécoslovaquie. De même que Hitler veut rassembler les germanophones, y compris d'ailleurs l'Alsace-Lorraine, de même Poutine veut rassembler tous les russophones de Crimée, du Donbass, d'une partie de la Géorgie, des pays baltes, de certains coins des pays baltes, etc. Et d'autres pays même. Or, les territoires, les frontières traditionnelles ont aussi des raisons historiques d'être ce qu'elles sont, précisément celles qui ont abouti à cet actuel cadastre de l'Europe. En 1938, à Munich, où France et Angleterre devaient vivement sermonner Hitler et Mussolini, les démocraties se sont mises à plat ventre pour sauver la paix. En fait, nous avons eu la guerre. Bafouant les accords de Munich de 1938, Hitler, en 1939, envahit la Pologne entière et pas simplement sa partie plutôt germanophone. C'est là que France et Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Faut-il attendre l'invasion de la Pologne, cette fois-ci par Poutine et non pas par Hitler, pour réagir fermement par des contre-menaces militaires? Pour l'instant, les Européens augmentent fortement leur aide à l'Ukraine et la France n'écoute pas, n'écarte pas l'hypothèse d'un futur éventuel envoi de troupes au sol. Le nouvel accord France-Ukraine a été approuvé à l'Assemblée nationale par 372 voix pour et 99 contre. Donc, beaucoup de députés d'opposition ont voté cet accord. La gauche et la droite modérée l'ont approuvé. Seuls les deux extrêmes ne l'ont pas voté. Il faut dire que l'Europe est de moins en moins protégée par la première puissance militaire du monde, les USA. Trump, dans l'une de ses diatribes populistes, dit ne plus vouloir dans l'OTAN de ces pays européens qui participent si peu à un effort militaire en se contentant de la protection américaine. Il va jusqu'à prévoir de conseiller à Poutine d'attaquer ces pays irresponsables. Alors, est-ce que c'est de l'humour? En tout cas, de l'humour noir. Biden n'en est pas là, mais lui aussi considère que le danger numéro un dans le monde, c'est la Chine et pas la Russie. Donc, il va bien falloir, le plus vite possible, que l'Europe se réarme pour se défendre seule ou presque. Seule la France peut envoyer en quelques mois 20 000 hommes entraînés et efficacement armés sur le front ukrainien, comme l'affirme dans Le Monde le chef d'état-major de l'armée de terre. Seule la France dispose, parmi les 27 États de l'Union européenne, seule la France dispose de l'arme nucléaire tout à fait opérationnelle et crédible. Poutine, d'ailleurs, ne dit pas le contraire. Mais d'escalade en escalade, peut-on arriver à une confrontation atomique? Attention, le pape a raison. Ce serait un suicide de l'humanité. La bombe de Hiroshima avait une puissance de 15 000 tonnes d'équivalent explosif conventionnel, le TNT, le trinitrotoluène. Ce fut énorme, et des centaines de milliers de victimes. Mais il existe aujourd'hui quelques bombes, paraît-il, de 57 millions d'équivalent TNT, soit 4000 fois plus puissantes, 4000 fois plus puissantes que celles de Hiroshima ou Nagasaki. Alors il faut négocier. Mais négocier quoi? L'annexion de la Crimée et du Donbass par l'agresseur militaire russe? Ne serait-ce pas un remake des accords de Munich de 1938 où les démocraties ont tout donné à l'agresseur sans obtenir la paix? Car l'enjeu est certes notre vie quotidienne, pénurie de blé et de carburant, mais aussi et surtout l'enjeu est dans l'alternative démocratie ou autoritarisme. On a longtemps cru que la démocratie était un idéal universel. On sait que ce n'est pas le cas. Il y a des peuples qui ne voient dans la démocratie que source de décadence, d'indécision et de querelles internes permanentes. De ce point de vue, Trump et Poutine sont dans le même camp, mais aussi la Chine, l'Inde, l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres. Être démocrate, c'est s'ouvrir au débat et s'obliger à tenir compte des autres. Le pape Léon XIII et bien d'autres depuis y ont vu aussi un idéal chrétien.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.